Chapitre 46. Hans Hartung. Va comme l'éclair. Camille tapotait nerveusement sur son portable en attendant d'être reçue par le docteur Van Horst. Il était très en retard et chaque seconde qui s'égrenait, elle ruminait la fin du dernier rendez-vous. Camille s'était alors laissé faire, docilement, sans rien contester. Son respect fébrile de l'autorité médicale, sans doute. Mais cette histoire de pendentif que l'enfant devait garder autour du cou la contrariait. Que voulait donc dire cette faribole? Quand Camille déboula dans le cabinet, Mona à la main, le visage enflammé, elle ne prit aucune précaution d'usage. « Où est-ce qu'on va, là, docteur? Ça fait un an que Mona vient vous consulter. Elle a tout fait, tous les soins possibles, le cerveau, les yeux, l'hypnose. Et maintenant, vous nous racontez qu'elle ne doit pas quitter son pendentif ?» Mona était pétrifiée. Non seulement par le ton et la virulence de sa mère, mais aussi par l'idée que son série de goumiers qu'elle aimait tant soit un objet de dispute. « Madame, répondit Van Horst, mon métier est de soigner. J'entends votre colère bien légitime. Mais ce que je sais, c'est que la psyché est un mécanisme formidablement complexe et qu'il ne faut rien négliger de ses fonctionnements possibles.
Et donc,
après des recherches très poussées avec Mona, je suis certain d'avoir trouvé la source de sa cécité. Elle n'est pas d'ordre mécanique, mais d'ordre psychotraumatique. Et c'est par l'hypnose que j'ai pu accéder à cette vérité. Ou plutôt, c'est grâce au chemin qu'a parcouru Mona avec moi, à ce qu'elle a retrouvé d'elle-même et de son lointain passé.
Lointain ? Mais Mona est une enfant !
Mona est une jeune fille. Et pour elle, 8 années en arrière représentent un abîme bien plus profond et difficilement atteignable que 3 décennies pour les adultes que nous sommes.
Soit. Et alors ? Qu'y a-t-il dans ce passé ?
Van Horst ouvrit un tiroir et en sortit avec délicatesse un dossier relié par une petite spirale noire. La page de couverture, rouge et cartonnée, était recouverte au feutre épais d'une mention manuscrite soulignée 2 fois. Les yeux de Mona. Le médecin avait pris soin de rédiger un rapport détaillé. Tout est là-dedans. Le titre n'est que vaguement médical, j'en conviens. Mais j'y ai rassemblé l'ensemble des données, ainsi que ma conclusion.
Eh bien, votre conclusion, docteur, quelle est-elle ?
À cette question pleine d'impatience, Mona eut un geste qui suspendit l'échange. Car la conclusion, elle la sentait, elle la connaissait, elle était en elle, partout, elle la traversait. Cette conclusion lui appartenait. Non qu'elle eût peur de l'entendre de la bouche du médecin. En revanche, elle redoutait de ne pas la formuler, elle, avec ses propres mots et ses propres impressions. L'avenir, elle l'incarnait. Et pour l'incarner pleinement, pour s'en saisir, il fallait assumer d'en être la dépositaire. Il fallait prendre la parole sans la laisser à une autorité extérieure, si bienveillante et compétente que fût celle du docteur Van Horst.
« Maman, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai compris, je voudrais que ce soit moi qui vous le dise, à papa et à toi, quand ce sera le moment. »
« La lumière est en elle, » approuva le médecin qui tendit le dossier à la jeune fille plutôt qu'à sa mère. Henri Villemin trouva sa petite fille encore changée ce mercredi-là et de plus en plus effilée. Il lui dit « C'est étonnant, Mona, comme tu grandis vite. Tu seras bientôt plus grande que ton père et ta mère, tu verras. Et je crois que tu ne ressembleras ni tout à fait à l'un, ni tout à fait à l'autre. Et heureusement, tu n'auras pas ma tête non plus. » Mais la remarque perturba l'enfant, soudain toute sombre.
« Moi, » dit-elle, « ça me rend triste. Je voudrais te ressembler, Dadé. Je voudrais ressembler à quelqu'un. Le plus souvent à toi, mais sinon à maman ou à papa, ça m'irait aussi. Et Mona, tremblotante d'émotion, se précipita contre son grand-père et le broya presque dans son étreinte. Henri lui ôta sa capeline et lui caressa les cheveux tendrement, surpris d'une telle réaction.
« C'est trop triste, » reprit-elle. « Je suis juste comme je suis. »
Le vieil homme en eut le cœur craquelé. D'une part, rien n'est plus beau que d'être juste ce que l'on est si l'on est Mona. Et cela, Mona ne le saisissait pas encore. D'autre part, il était évident que Mona ressemblait à quelqu'un. Il était flagrant que coulait en elle tout un sang de force, de grâce et de bonté. Elle en ignorait la source, voilà tout. Mais Henri, lui, ne voyait que cela. Bien sûr que tu ressembles à quelqu'un, Mona. Et c'est vrai, ce n'est ni à ton père, ni à ta mère, et pas vraiment à moi non plus.
Mais à qui alors, Dadé ?
À ta grand-mère, Mona. Tu ressembles tellement à ta grand-mère. L'enfant ouvrit d'immenses yeux solaires. Il n'était plus bleu, mais jauni par la révélation. Transfiguré.
Alors, Dadé, je t'en supplie. Allons voir aujourd'hui le tableau préféré de mamie.
C'était une œuvre abstraite de 179 cm sur 111, composée essentiellement d'une vaste masse obscure centrale. Ce n'était pas tout à fait un aplat de noir, mais plutôt une nappe vibrante dont on sentait qu'elle avait été composée par une pulvérisation de peinture. D'ailleurs, elle avait des bords inférieurs et supérieurs qui oscillaient très légèrement et dont la délimitation incertaine était faite d'une matière soufflée, atomisée, donnant l'impression d'une brume qui se dissipe. Il y avait en aval de la nappe noire une base jaune citron qui occupait le bas du tableau et s'élevait sur un peu moins de 20% de sa hauteur totale. Cette zone était très légèrement rainurée à la verticale et ses innombrables sillons conféraient à l'œuvre un dynamisme vif. Dans la zone qui surplombait la nappe noire, affleurait une bande d'un bleu profond, rainurée lui aussi, et vraiment étroite, presque écrasée contre le bord supérieur du cadre, à la manière de ces bouts de ciel qui semblent discrètement poindre derrière les tumultes d'un orage. Enfin, dans l'ample masse noire se dressaient trois traits lumineux d'une netteté fulgurante, comme trois grandes herbes ou trois longs cheveux isolés, légèrement courbes, joliment souples, mais tendu par une puissante énergie aérienne. Au centre, il y avait le plus grand qui parcourait presque de bas en haut la totalité de la nappe obscure. À sa gauche, un deuxième trait, plus fin et plus arrondi, suivait un mouvement s'apparentant à une tangente et, plus discret encore, à sa droite, un troisième trait cheminait de même, sans que l'un ni l'autre ne touche néanmoins le trait principal. Ensemble, ils pouvaient suggérer de façon ultra simplifiée l'ascension d'un grand tronc d'arbre effilé, et bien d'autres choses encore. Ainsi donc, Mona contemplait l'œuvre favorite de sa grand-mère. Sans s'en rendre compte, elle sourit continuellement durant les 24 minutes qu'elle passa, assise en tailleur, à examiner cette composition toute simple. Elle sentait plus que jamais combien la peinture pouvait allumer en soi une lumière intérieure.
« Je comprends complètement, mamie, » dit-elle enfin à son grand-père. « Et je suis certaine qu'elle pouvait rester des heures devant cette toile. »
« Elle y restait des heures entières, oui, » confirma Henri d'une voix nostalgique et heureuse. « Elle connaissait l'œuvre par cœur et pouvait en désigner les yeux fermés tous les éléments qui la constituent.
« Moi, » dit Mona en pointant le doigt, « je vois 9 choses. Trois zones d'abord. Une jaune en bas, une noire au centre et une bleue en haut. Et puis je vois les deux limites un peu floues entre le jaune et le noir, puis entre le noir et le bleu. Je vois aussi les trois traits, bien sûr. Et enfin la signature dans l'angle inférieur droit, Hartung 64.
« Ton décompte tombe juste. » Car le 9 était le chiffre fétiche de Hartung. C'était aussi celui de son épouse.
Il faut dire qu'ils s'étaient tous deux rencontrés le 9 mai 1929, alors qu'ils avaient respectivement 24 et 20 ans. Henri eut l'air un peu rêveur en mentionnant ces âges.
« Ce qui a dû tellement plaire à mamie dans cette œuvre, » rebondit Mona, « c'est qu'elle est pleine de contrastes. Et les contrastes, ça donne l'impression qu'il y a un combat. »
Mona avait dit cela avec une innocence ravissante qui saisit Henri à la gorge. Il regardait le trait central du tableau de Hartung et, par mimétisme avec l'œuvre, sentit vibrer la balafre qui déchirait une partie de son visage. Il sentit le coup de couteau qui lui avait fait perdre l'usage d'un œil des décennies auparavant. La blessure se réveilla comme si la peau se rouvrait. Et de manière inexplicable, son œil mort s'embua et versa une larme, une fine larme d'émotion, si discrète et inattendue que Mona ne la vit pas.
Oui, Mona, c'est exactement cela, répondit-il enfin.
Hartung adorait Rembrandt et Goya, tu sais.
Ah !
L'interrompit Mona.
C'est donc ça. Je savais qu'il me rappelait les tableaux du Louvre. Je suis sûr qu'il aimait le clair-obscur. Et en faisant un tableau abstrait, où il y a du jaune qui a l'air de s'échapper d'une brume toute sombre, il fait exactement comme les artistes du passé.
Pas tout à fait non plus. Sa technique est très différente. Ici, il n'utilise pas un pinceau ni de l'huile. Les nappes flottantes, Hartung les obtient en pulvérisant sur la toile de la peinture acrylique à l'aide d'un pistolet de carrossier, un outil qu'on utilise de coutume pour la couleur des voitures. Cela donne aux différentes zones colorées un aspect très vibrant, poudreux, évanescent.
On dirait des nuages ou une vague de brouillard.
D'autant que Hartung est souvent qualifié de nuagiste dans son esthétique. Les contours flous de ses formes absorbent le regard, l'enveloppent, le font plonger au cœur du tableau. Il est en cela très proche d'un de ses amis, l'Américain Mark Rothko, avec lequel il a beaucoup échangé sur ces questions. Mona resta silencieuse un long moment, songeant à sa grand-mère. Elle s'interrogeait.
Comment un artiste pouvait-il un jour parvenir à ce qu'il était, à ce qu'il faisait?
Comment un jeune garçon, prénommé Hans, devenait-il un génie nommé Hartung? Et surtout, comment en vient-on à susciter l'admiration de Colette Wilmain?
Qu'est-ce qu'il faisait, Hartung, quand il avait mon âge?
La Première Guerre mondiale venait d'éclater, et il voulut d'abord devenir pasteur. Il avait un tempérament très religieux. Il a ensuite abandonné cette vocation pour se consacrer à la contemplation des étoiles, parce qu'il souhaitait étudier l'astronomie. Et c'est très intéressant de se rappeler cela quand on examine cette peinture, car elle s'avère à la fois l'expression de son intériorité, du clair-obscur qui traverse chaque être humain, mais simultanément, elle est comme une vision des mystères du cosmos, de la nature, des mouvements de la matière. Tu as remarqué le chiffre à côté de la signature. L'œuvre est de 1964, l'année même de la première occurrence du terme « trou noir ». Bien sûr, il ne faudrait pas croire que Hartung peint de manière littérale, mimétique, des phénomènes astrophysiques, mais il les traduit dans son propre langage.
Et après, Dadé ?
Hartung était un homme tenace et très courageux. Il était allemand, mais juste avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, il décida de se battre contre son propre pays parce qu'il détestait les nazis. Il a vécu de manière clandestine dans le sud-ouest de la France, a fui vers l'Espagne, a été enfermé dans des prisons et des camps, et quand il est reparti au combat en 1944, il a été salement blessé. Sa jambe a été gravement touchée, et il a fallu l'amputer sans pouvoir l'anesthésier complètement. Tu peux donc t'imaginer sa souffrance. Quand revint la paix en Europe et qu'il put se remettre à peindre, il n'avait plus tout à fait la même mobilité, ce qui est très contrariant quand on fait un art où le geste compte plus que tout. Et ça aussi, c'est important quand on regarde cette œuvre. Il a réinventé ses moyens en utilisant ou détournant toutes sortes d'outils, et notamment les pistolets de carrossier dont je te parlais tout à l'heure, pour continuer à peindre. Je suis sûr que Hartung voulait toujours faire la plus belle ligne possible. Et là, c'est la perfection ce qu'il a dessiné, avec ses trois traits au milieu. Sauf que ce ne sont pas vraiment des traits dessinés, mais grattés. Hartung a profité de ce que la peinture acrylique n'était pas encore sèche pour en retirer une couche superficielle d'un coup de lame ou de spatule avec une virtuosité extraordinaire. Et la lumière apparaît en crevant la masse noire.
Comme un éclair au milieu des nuages.
Oui. D'ailleurs, quand Hans Hartung avait ton âge, il avait peur des orages. Mais il se disait que s'il parvenait à figurer très vite les zigzags de la foudre, alors il ne pourrait rien lui arriver. Au fond, la leçon de sa peinture, c'est « va comme l'éclair ».
Alors je comprends pourquoi mamie l'aimait plus que tout,
conclut Mona.
Parce que je me rappelle ce qu'elle m'a dit avant de disparaître. Oublie le négatif. Garde sans cesse la lumière en toi.
Henri, à ces mots, chavira. Lui, toujours si maître de ses émotions, dut s'asseoir et un instant, il eut peur de défaillir. Mona lui posa un baiser sur la joue. Il sourit. Que lui était-il arrivé? Était-ce de réentendre comme une voix venue d'outre-tombe les mots de son épouse passionnément aimée adressés à sa petite fille adorée? Oui, c'était cela. Mais pas seulement. C'était aussi le secret du langage de Mona. Cette singularité dans ses mots, son phrasé, son expression, cette curiosité dont il était absolument certain de l'existence, sans jamais l'attraper pour de bon. Cette musicalité bizarre et charmante dont il cherchait la clé depuis tant de temps, il pensait en avoir exhumé la nature et la cause. Avait-il enfin trouvé son secret? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Il fallait écouter parler Mona encore et encore pour vérifier l'hypothèse. « Je dois être patient », se dit-il. Son pouls avait retrouvé une cadence normale, presque normale.